Chapitre 12. La Mini Cooper Works se gara au pied de la minuscule maison en bois, tout en hauteur et en profondeur, à peine la largeur de la voiture. Le rugissement frénétique des guitares saturées et de la double pédale de Steel Echoes par Lamb of God disparut en même temps qu'Atticus coupait le contact. Mrs. Articott, la voisine, était déjà à sa fenêtre illuminée et Atticus lui adressa son plus beau sourire. Provocateur au possible. Il se souvenait encore combien elle s'était réjouie d'accueillir un flic dans le quartier les premiers jours, avant d'entendre sa musique de démon et de comprendre qu'il était gay. Depuis, c'était tout juste s'il avait droit à un bonjour du bout des lèvres lorsqu'ils se croisaient. Atticus vivait à Silver Lake, un quartier résidentiel tranquille au nord de Downtown, sur une colline au bord du réservoir qui lui donnait son nom. Ici, la plupart des bâtisses s'imbriquaient au mieux les unes aux autres le long de rues étroites, serpentant sans logique apparente dans un style plus européen que nord-américain. Presque pas de jardin, mais des arbres partout pour compenser, au point que leurs racines torturaient le bitume jusqu'à le bosseler et le fendre. Il y flottait un air bohème, sur fond d'arômes d'hibiscus, de glycine et de rose. Atticus escalada l'escalier extérieur et entra par l'étage dans ce qui lui servait de cuisine et de salon. Une unique baie desservait le petit balcon. La flaque noire du réservoir dans l'obscurité était à peine visible, masquée par les toits en contrebas, mais l'autre colline, sur la rive opposée, offrait un spectacle qu'Atticus se plaisait à contempler, surtout le soir, lorsque les lumières venaient souligner toutes ces vies si proches, et dont il ne savait pourtant rien. Il aimait admirer longuement ces lueurs et se dire que chacune correspondait à un être humain au moins, qu'à cet instant même, celui-ci riait peut-être, pleurait, jouissait, s'abrutissait devant un écran, ou même regardait dans sa propre direction, plein d'interrogations, lui aussi. Il alluma et s'installa au bar avec la salade qu'il venait d'acheter chez Whole Foods, sur le trajet du retour. Il avait assez d'appétit pour en engloutir deux comme celle-ci, mais s'en contenta. Il tenait à sa ligne. La quarantaine passée, les poignées d'amour se remplissaient plus rapidement qu'un bar un soir de match. Atticus ne s'aimait déjà pas beaucoup. S'il lâchait prise sur son physique, il finirait par carrément se détester. Puis il se posa devant l'impressionnante collection de CD qui occupait tout un mur. Il n'était pas adepte du tout numérique. Il avait besoin de toucher, de voir, pour laisser monter en lui les notes. À côté, les vinyles s'étalaient sur presque autant d'étagères. Il sélectionna l'album Skyscraper de David Lee Roth pour démarrer la soirée en douceur et le disposa délicatement sur le tiroir du lecteur. Les deux amplis de 150 watts s'embrasèrent et poussèrent les premiers accords dans les monstrueuses enceintes focales. Pour faire taire sa faim persistante, Atticus se prépara un thé aux agrumes, puis il s'installa dans son sofa, son ordinateur portable sur les genoux. Il n'en avait pas encore fini aujourd'hui avec Oscar Ryoto. La page de son blog s'afficha. Atticus se mit à fouiller, lire les brèves qu'il n'avait pas eu le temps de décortiquer dans l'après-midi, et trouva un onglet « Contact », d'où il envoya un message. Demain, il vérifierait sur le téléphone de Ryoto si le message était bien arrivé dans sa boîte mail ou s'il était réaiguillé vers une adresse inconnue. Il tournait en rond. Et lorsque le silence revint dans le salon, Atticus se sentit un peu désemparé. Il se leva et, dans l'espoir d'être inspiré, il choisit un de ses albums vinyles préférés, « Clandestine » d'Entombed. Un groupe de death metal suédois dont la pochette relevait de l'œuvre d'art, un paysage gothique et lugubre tout en nuances d'ocre et de violet. C'est bien mon humeur du moment, tiens. De retour sur le site web, il inspecta de nouveau des dossiers plus longs, payants en utilisant son inscription du jour, pour s'assurer qu'il n'était passé à côté de rien, insistant sur les plus récents. Aucun détail particulier n'attira son attention. Et il n'imaginait pas les lobbies de la malbouffe ou du tabac se muer en mafia pour éliminer un journaliste qui avait déjà diffusé ses articles. Il remarqua alors la section des commentaires, tout en bas. Il y en avait peu, mais un nom revenait à plusieurs reprises. « I seek true for you ». Et le modérateur de la page, Oscar Ryoto en personne de toute évidence, lui avait répondu à plusieurs reprises. Manifestement, il se connaissait, faisant allusion à des faits connus d'eux seuls. Atticus vérifia sur tous les articles majeurs et releva la présence de « I seek truth for you » sur presque chacun, Ryoto lui répondant la plupart du temps. Si quelqu'un était susceptible de connaître le prochain sujet de Ryoto, c'était lui. Atticus doutait qu'il soit identifié dans le répertoire du téléphone de Ryoto sous ce nom-là, mais il lui faudrait jeter un œil. Ses doigts pianotaient machinalement sur le rebord de son ordinateur. Comment identifier un individu par des commentaires dont le principe même est l'anonymat? Atticus n'avait pas la réponse et cela l'agaça. Il sentait que c'était intéressant, une piste à suivre, et la frustration s'intensifia. Le métier d'inspecteur, trouver des voies et se confronter à des cul-de-sac, jusqu'à ce qu'enfin l'une d'entre elles débouche sur la destination lorsque c'était possible. Une longue errance sur les routes de la vérité, pleine d'étapes, sans garantie d'une arrivée. Le solo aux notes mélancoliques d'Evelyn, dominé par les grondements de la basse et les claquements de la batterie, extirpa Atticus de sa réflexion. Il se laissa entraîner brièvement dans ce tunnel d'émotions noires, puissantes, viscérales. Il aimait cette musique pour ça aussi. Sa capacité à faire remonter ce qu'il avait de plus nostalgique, de plus fragile. Une émotion primaire dont il ne captait pas bien le sens lui-même. Un lien entre la cruauté de la vie et l'implacable terreur de la mort. Lorsqu'il se leva pour changer la face du disque, Atticus repensa aux insectes qu'il avait prélevés sur la scène de crime plus tôt le matin et s'empressa de sortir de sa poche les sachets en plastique pour les déposer sur la table. Après une courte réflexion, il se souvint où il avait rangé son matériel datant de la fac et fila au sous-sol pour exhumer un carton du fond du minuscule garage. Il nettoya sa paillasse portative à l'eau claire, fit de même avec les quelques instruments et brancha sa loupe lumineuse à une prise du salon. Il vida le contenu du premier sachet devant lui sur la plaque de plastique blanc et alluma la loupe. La voix de Jay Hottington résonna sous son crâne. « C'est tout ce que t'aimes. » Et il avait raison. Cela lui rappelait ses années d'étudiant en bio, ses ambitions avortées d'entomologiste. Les carapaces de chitine s'aggloméraient au milieu de pattes, de mandibules et d'antennes broyées. On avait marché dessus. Plus que cela encore, on les avait écrasées. Fort. Plusieurs fois, l'image d'un talon qui s'abat sur une nuée d'insectes s'imposa dans l'esprit d'Atticus. Un talon qui frappe et insiste, tournant sur lui-même. Comment étaient les semelles d'Oscar Ryoto? Sale. C'était peut-être lui, à confirmer avec le bureau du légiste. Mais si cela s'avérait, un étrange scénario s'était déroulé dans l'enceinte du zoo la nuit dernière. Un individu qui appelait tard pour fixer un rendez-vous dans cet endroit isolé, quelqu'un qui avait finalement attaqué Oscar Ryoto sur le banc avant que celui-ci ne cherche à s'enfuir. Et s'il avait écrasé ses insectes avant d'arriver au banc et d'être agressé? Non. Les petits charniers avaient été retrouvés disposés un peu partout, de manière erratique, sans aucune cohérence. Ce n'était pas quelqu'un qui marchait dans une direction particulière qui les avait écrasés, mais une personne en panique qui courait partout à la fois, sans bien savoir où aller. Atticus s'arma d'une pince et débuta un lent et minutieux travail de tri afin de tenter de reconstituer quelques fragments d'insectes, soulevant de minuscules corps pour en découvrir d'autres en meilleur état, récupérant un morceau pour en extraire une partie plus reconnaissable, ou jouant au puzzle avec ce qui s'imposait comme une évidence. Ses souvenirs de dénomination remontaient à trop loin pour être pertinents, et sans ses ouvrages de référence, il ne pouvait classifier avec précision chaque échantillon. Toutefois, il lui sembla reconnaître un classique Necrophila americana coléoptère. Sylph, pour être juste, se corrigea-t-il. Facilement reconnaissable à sa tête jaune, connue pour s'accoupler sur les morts avant d'enterrer ses œufs dans la chair pourrie. Puis un autre, sorte de scarabée, un hystéridé identifiable au vert métallique de son enveloppe et connu des entomologistes médico-légaux pour arriver sur les cadavres dans les 24 heures suivant le décès afin de s'en nourrir. Plusieurs spécimens parmi ses autres prélèvements ne lui disaient rien, avant qu'il ne tombe sur un Homosita colonne. Celui-ci s'en souvenait bien, car sa forme très arrondie l'amusait à l'époque et il était connu pour arriver sur les charognards sur la faim. Parfois des mois après la mort, pour nettoyer les derniers tissus les plus microscopiques sur les os. Et enfin, Atticus nota la présence de plusieurs Chelicerès, ce qui le surprit car, contrairement à ce que pensaient la plupart des gens, les araignées n'étaient pas considérées comme des insectes, mais des arachnides, ce qui n'était pas la même chose pour les biologistes, deux univers assez éloignés. Il parvint à réassembler une araignée célèbre, l'Oxoscelès reclusa, recluse brune d'intérieur, et progressivement se mit à froncer les sourcils contrariés. Il n'y avait aucune logique dans tout cela. Des escouades qui auraient dû débarquer les unes après les autres sur un cadavre, car elles n'étaient pas censées intervenir au même moment dans le processus de dégradation des corps, souvent séparés par des temps très longs, se réunissaient au même endroit, concentrées les unes sur les autres, au point de presque fusionner lorsqu'elles avaient été tuées. Pire, c'était une violation totale des lois naturelles élémentaires. Des familles d'insectes opposées, incompatibles, regroupées les unes sur les autres. Et Atticus ne voyait qu'une explication possible. C'était bien l'homme qui était intervenu pour les répandre ici, sur le sol, avant qu'on ne marche dessus. Les insectes devaient être déjà morts pour ne pas s'enfuir. Mais pourquoi s'était-on donné autant de mal? Et comment avait procédé l'assassin d'Oscar Ryoto? Atticus était dans une impasse. Il n'apercevait pas le moindre début d'idée, sinon qu'il était face à un degré de machiavélisme et peut-être de perversité qu'il n'avait jamais encore effleuré. « C'est tout ce que t'aimes. » Il n'en était pas si sûr à présent. Le chanteur Demtomd poussa un hurlement de souffrance interminable qui fit écho à ce qui se bousculait sous le crâne d'Atticus. Alors il entendit celui, terrifié, d'Oscar Ryoto qui courait pour survivre dans le vieux zoo, sous une lune timide, observant de son œil blafard cette scène d'horreur pure. Et pendant un bref instant d'égarement, Atticus se demanda si les insectes n'étaient pas en réalité grouillants et en pleine forme lorsque Oscar Ryoto les avait écrasés, tandis qu'il le pourchassait et tentait de les dévorer lui, vivant.